implantée dans 37 pays, la mission laïque française représente aujourd'hui un réseau de 108 établissements scolaires allant de la maternelle à la terminale et fréquentée par 61 000 élèves. Partie intégrante du réseau d'enseignement français à l'étranger, la MLF connaît aujourd'hui quelques difficultés économiques. Avec nous pour en parler, le directeur général Jean-Marc Mériot. Monsieur Mériot, bonjour.
Bonjour.
Alors, à la suite du rejet de l'amendement 1249 au projet de loi de finances pour 2024 qui proposait l'attribution de 2 millions d'euros, je le rappelle, supplémentaires à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE, pour renforcer son soutien financier à la mission laïque française, conformément à l'accord cadre, a été rejeté. La MLF se trouve confrontée donc à des difficultés financières, menaçant peut-être même la pérennité de l'association. Comment en êtes-vous arrivé là et quelles sont pour vous les conséquences de ce rejet?
Alors, en fin de compte, ce rejet était une proposition, hein. C'était une proposition d'amendement, et donc on se retrouve là, bien évidemment, dans le jeu parlementaire qui ne répond pas spécialement aux accords tels que nous pouvons les avoir avec l'opérateur public. Vous voyez, donc je pense qu'il faut bien distinguer ce qui relève du travail parlementaire, c'est-à-dire ce que les parlementaires sont amenés à pouvoir proposer en matière d'amendement, et donc après c'est le gouvernement qui est amené à rejeter ces amendements, voilà, dans le cadre de la loi budgétaire, mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de soutien de l'opérateur public. Et il faut bien distinguer les deux dimensions, et donc le travail est en cours bien évidemment avec l'opérateur public, puisque nous sommes amenés, dans le cadre de l'accord cadre, à louer, en tout cas à payer un certain nombre de factures à l'opérateur public, et donc nous sommes amenés à travailler avec l'opérateur pour voir comment nous pouvons trouver des modalités pour nous aider à surmonter la période qui est la nôtre aujourd'hui. Donc ça peut prendre plusieurs formes, ça sera à l'État et à l'opérateur public de décider quel type de forme ça pourra prendre. Mais c'est pas parce qu'il y a eu ce rejet-là qu'il n'y aura pas d'aide. Pourquoi cette situation? Elle est très en lien avec une situation qui on pourrait qualifier de post-Covid. C'est-à-dire que la mission laïque française a décidé pendant le Covid de ne pas augmenter les frais de scolarité, ce qui se justifiait par le fait d'un enseignement à distance. C'est pas pour ça que nous n'avons pas continué à payer les enseignants, c'est pas pour ça que nous n'avons pas été amenés à avoir des frais supplémentaires, c'est pas pour ça que nous n'avons pas été amenés à effectuer une continuité pédagogique, mais c'est vrai que la mission laïque française a décidé pendant cette période-là de ne pas augmenter les frais de scolarité. On s'est retrouvé à la suite de cette période Covid dans une situation particulière, et en particulier en lien avec un contexte international qui a aussi été amené avec la crise en Ukraine en particulier, hein, mais pas seulement, avec la crise libanaise, à pouvoir modifier quand même un certain nombre de paramètres et à faire que un certain nombre d'établissements qui étaient déjà en difficulté avant le Covid soient encore plus en difficulté post-Covid. Vous voyez, donc que ça soit par des baisses effectives, que ça soit par une augmentation de l'inflation et l'augmentation des frais fixes des établissements et ainsi de suite. Donc la situation aujourd'hui fait que des établissements qui pouvaient être en difficulté, c'est le cas en particulier des établissements espagnols, parce que pendant de longues années le principe de solidarité de l'association a fonctionné, c'est-à-dire une capacité à pouvoir faire qu'à un moment donné il puisse y avoir la possibilité d'aider des établissements qui pouvaient traverser des périodes difficiles et faire qu'il puisse y avoir une compensation.
Je rappelle juste, monsieur Mériot, vous parlez effectivement des établissements en Espagne qui vous ont conduit à aller jusqu'à un déconventionnement pour les groupes scolaires d'Alicante et de Villanueva.
C'était dans le cadre de nouvel accord cadre. Il y avait eu ce souhait de passer la participation à ce qu'on appelle la rémunération des résidents à 100%, et que du coup, nous étions amenés à être amenés à pouvoir payer cette rétribution à l'AEFE. Donc, il a été décidé de mettre fin à cette convention puisque ces emplois n'étaient plus subventionnés dans le cadre de ces nouvelles accords cadre. L'aide de l'État avait été reportée, ou en tout cas avait été transférée sur d'autres établissements pour nous permettre de venir en aide à d'autres établissements qui étaient aussi en grande difficulté. J'ai envie de dire, ces enjeux de péréquation sont des enjeux qui sont très en lien avec le positionnement global de l'association, c'est-à-dire cette capacité à dire qu'à certains moments, on a aider des établissements, à d'autres il faut en aider d'autres, sauf que quand vous devez aider tous les établissements, vous vous retrouvez bien évidemment dans une situation plus délicate pour permettre de faire qu'on puisse retrouver un équilibre budgétaire. Donc la réalité, c'est que l'association a été amenée à constater depuis de plusieurs années, mais ça s'est dégradé dernièrement, des déficits importants, et que il lui faut absolument faire que ces établissements puissent trouver un équilibre budgétaire. Comme vous le savez, nous sommes une association d'utilité publique, donc nous n'avons pas vocation à pouvoir faire des bénéfices, mais il nous faut trouver les moyens de l'équilibre, parce que la réalité, c'est que depuis maintenant plusieurs années, cet enjeu de péréquation et le fait qu'il y ait une contribution qui puisse remonter au niveau de la tête de réseau, c'est la tête de réseau, en tout cas le siège, qui a été amené à pouvoir compenser l'ensemble de ses déficits, et qu'aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de pouvoir effectuer ce renflouage, on va dire, et qu'il faut que chaque établissement puisse trouver les moyens de son équilibre.
Quelles sont les conséquences concrètes, tant sur le déconventionnement de ces groupes scolaires en Espagne que sur la situation générale financière? Quelles sont les conséquences pour les familles concernées et quelles suites possibles aujourd'hui?
Alors, les conséquences, elles sont en effet de plusieurs ordres. Nous, on a fait le choix dès le début de dire que nous ne fermerons pas d'établissement. D'accord, et d'assurer la continuité pédagogique et le maintien de nos établissements, pour permettre le maintien de nos établissements, parce que nous nous sommes engagés vis-à-vis des parents et de leurs enfants en particulier, de pouvoir leur offrir une scolarité dans un programme français. Nous nous sommes engagés à ne pas fermer des établissements. Mais à partir du moment où on s'engage à ne pas fermer des établissements et à faire que les établissements puissent retrouver un équilibre, ça veut dire que chaque établissement doit être en mesure de pouvoir couvrir l'ensemble de ses frais. Et donc, pour couvrir l'ensemble de ses frais, chaque établissement doit être en mesure de pouvoir faire des économies, bien évidemment, et donc de réduire un certain nombre de coûts, mais aussi d'augmenter ses recettes. Et donc, l'augmentation des recettes passe par une augmentation des frais de scolarité. Donc, la conséquence pour les parents, c'est une augmentation des frais de scolarité. Et des frais de scolarité importants, parce que les déficits sont importants. On a eu un constat d'augmentation des déficits très important, en particulier sur le réseau européen. Pour cette année, 5,2 millions d'euros de déficit pour nos établissements européens. Donc, quand je dis européens, c'est les 10 établissements espagnols plus l'établissement de Florence et l'établissement de Thessalonique. Donc, il nous faut être en mesure de pouvoir trouver les moyens à travers une augmentation des frais de scolarité qu'on a essayé de calibrer le plus juste possible. Mais ça reste quand même des frais de scolarité très élevés qui aujourd'hui oscillent entre 8 et 14%.
Vous avez perdu des familles suite à ces augmentations
Pour le moment, on ne sait pas trop si on a perdu des familles. On espère qu'on ne perdra pas des familles, parce que l'équilibre budgétaire, on l'a construit aussi avec des effectifs dont on a essayé de limiter la perte au maximum. C'est-à-dire que voilà, si on perd encore plus d'élèves dans nos établissements demain, la situation sera encore plus compliquée.
Comment se passe la discussion justement avec l'AEFE? Est-ce qu'ils vont vous soutenir suite à ces efforts financiers que vous mettez en place pour justement maintenir tant les établissements que le niveau pédagogique et d'enseignement? Comment ça se passe, cet échange avec l'AEFE?
On est en discussion en ce moment pour avoir un avenant à notre accord cadre, parce que l'accord cadre fait que nous devons chaque année être en mesure de pouvoir payer un certain nombre de services offerts par l'AEFE, qui sont de deux ordres. Nos établissements conventionnés, donc là nous sommes sur 2024, le déconventionnement sera opérationnel seulement au 1er septembre 2024, donc nous devons encore sur les premiers mois de l'année 2024 une certaine somme à l'AEFE sur la participation à la rémunération des personnels résidents. Donc c'est vrai que cette somme-là, elle est difficile pour nous aujourd'hui de s'en acquitter. Et à côté de ça, il y a aussi tous les frais qui sont en lien avec l'animation du réseau, on va dire, c'est des frais que l'AEFE est amené à nous facturer dans le cadre de son rôle d'animation du réseau. Et donc, nous sommes amenés à demander à l'AEFE de voir comment on pourrait être amené à faire que nous puissions avoir une aide sur cette année. Donc la question, elle est de cet ordre-là aujourd'hui, parce qu'il faut bien voir que c'est pas parce qu'on va avoir l'aide de l'AEFE, puisque c'est quand même assez déconnecté, que nous allons pas augmenter les frais de scolarité. On a besoin d'augmenter les frais de scolarité et d'avoir une aide de l'AEFE. Vous voyez ce que
Alors,
je veux dire?
Une aide financière à côté une augmentation conséquente des frais de scolarité, la volonté de maintenir le réseau. Quelles sont les actions concrètes justement pour enrayer cette situation, pour réussir avec un un soutien de l'AFE avec une augmentation des frais de scolarité et avec le maintien de votre réseau. Comment est-ce que vous mettez en place ces actions concrètes et quelles sont-elles?
Et ce qui se passe, c'est qu'on a été amené à faire que nous puissions vraiment réétudier chaque établissement et de pouvoir réétudier l'ensemble des structures des établissements. Donc, on a trouvé un certain nombre de leviers pour nous permettre de faire que nous puissions ne pas augmenter, puisque dans un premier temps, l'augmentation des frais de scolarité était bien plus supérieure quand nous avons fait un premier travail. On a retravaillé avec chaque chef d'établissement. On a aussi été amené à présenter l'ensemble de ces éléments-là aux parents. Et donc, au-delà de ce travail de pédagogie sur notre situation actuelle, c'est vrai qu'il nous faut là aussi faire que nous puissions réduire au maximum un certain nombre de coûts, mais il y a un certain nombre de coûts dont il est difficile de pouvoir s'abstraire. Donc cet équilibre-là que nous sommes amenés à travailler plus finement et à faire que ça puisse s'inscrire dans un budget équilibré. Donc ça, c'est un gros travail d'équilibre budgétaire que nous avons été amenés à faire. À côté de ça, la émission Laïque française a été amené aussi à faire un certain nombre d'actions sur d'autres leviers qui sont les siens en matière d'établissements partenaires, en matière de prêts, de repenser un certain nombre de choses. Donc, on fait tout un travail annexe, on va dire, qui nous permet là aussi de redonner un peu de souplesse budgétaire afin de passer cette période particulièrement délicate.
Alors justement, préparer le budget, comment est-ce que vous préparez l'avenir? Est-ce que vous avez des perspectives à court, à moyen et à long terme? Et si oui, quelles sont-elles?
Les perspectives qui sont les nôtres, c'est bien évidemment de continuer à développer les établissements. Alors, vous savez, la mission Laïque française a trois types d'activités aujourd'hui. Ces établissements en pleine responsabilité, ces établissements partenaires, ces écoles d'entreprise qui sont amenées à venir alimenter l'ensemble du modèle économique de l'association. Donc, nous continuons sur cette lancée-là. Nous espérons conclure des nouveaux accords dans d'autres pays pour nous permettre, à travers, entre autres, des dispositifs de mandat de gestion d'établissement. Par exemple, je pense ça en Égypte. Nous sommes amenés à avoir des nouveaux partenariats au Maroc. Vous voyez, parce que dans la logique de péréquation, c'est aussi continuer à développer le réseau pour permettre qu'à un moment ou à un autre, des activités viennent en compenser d'autres. Donc, on continue notre politique de développement, bien évidemment. Voilà, on ne l'arrête pas. Cependant, on est obligé de repenser aussi l'ensemble de notre politique de développement. Donc, nous avons une approche qui est assez différente aujourd'hui. C'est-à-dire, pendant longtemps, nous avons été amenés à faire que nous puissions financer plein de projets nous-mêmes. Donc, on change un peu ce modèle-là. On va chercher des investisseurs avec lesquels nous sommes amenés à créer des partenariats, entre autres dans le processus de construction d'un établissement. Pendant longtemps, on a été investisseurs de nos propres établissements. On pense que ce modèle-là n'est plus le modèle adapté et qu'il nous faut penser d'autres modèles. Donc, on réfléchit aussi à pouvoir changer un peu ce qui constitue aujourd'hui notre modèle économique et à imaginer d'autres dispositifs qui nous permettront de renforcer l'ensemble de nos activités.
Donc, on a bien compris la volonté de la MLF de tout faire pour maintenir ce réseau au mieux avec la même qualité. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaiteriez transmettre aux familles?
Je pense qu'il y a un enjeu, celui de permettre de continuer à faire que nous maintenions l'ensemble de l'activité. Et j'ai envie de dire, cette situation telle que nous la traversons aujourd'hui, et je tiens quand même à bien rappeler qu'elle concerne les établissements européens et que l'ensemble de nos autres activités, je pense particulièrement à celles au Maroc, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, ces activités-là ne sont pas amenées à être impactées par la situation actuelle. Voilà, c'est des établissements qui fonctionnent bien, sur lesquels nous ne sommes pas du tout dans la même situation, sauf que aujourd'hui ces établissements-là ne peuvent pas contribuer au reste parce qu'il y a trop d'établissements, en particulier nos établissements espagnols, qui sont en difficulté, et notre réseau libanais qui a reçu de l'aide de l'État à travers des péréquations, mais qu'on a réussi à cantonner en fin de compte dans un fonctionnement. Voilà. Là, c'est la multitude des crises qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus subvenir à toutes ces crises-là. Si j'ai un message à faire passer, on va trouver des solutions. Ces solutions-là, bien évidemment, ont un impact pour les familles parce que ça passe aussi par l'augmentation des frais de scolarité. Ne pas penser aussi que le siège de la mission Laïque française est amené à avoir un pactole démesuré et qui permettrait de pouvoir tout résoudre. C'est pas comme ça que l'association fonctionne. Je rappelle juste que au niveau du siège, Nous sommes à peine 30 personnes hein, pour pouvoir faire tourner et coordonner l'ensemble de l'activité des 108 établissements. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes un siège dispendieux par rapport à un fonctionnement d'un réseau qui compte 108 établissements. Hein. Je tiens juste à rappeler quand même ces éléments-là, parce qu'on peut des fois laisser croire que le fonctionnement du réseau et en particulier sa coordination est amené à dépenser beaucoup d'argent. Quand vous faites un ratio nombre de personnel de la tête de réseau et budget de la tête de réseau concernant le fonctionnement du réseau, c'est un ratio totalement optimisé aujourd'hui. Donc je pense que là-dessus, il faut bien aussi faire passer ces messages-là et que nous faisons tout pour maintenir l'activité de la MLF et faire que, bien évidemment, nous puissions ensuite retrouver un équilibre et une sérénité qui nous permettra de continuer pleinement à apporter nos établissements et l'ensemble des valeurs de l'association.
Très bien, donc le message est passé et on suivra bien évidemment l'évolution. Merci beaucoup Monsieur Mérieux d'avoir accepté.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.